bonjour. Bon, nous sommes le 17 juin. C'est la Saint-Hervé aujourd'hui, mais n'en faites pas trop, s'il vous plaît. Que ce soit pas trop ma fête quand même. Donc, une belle journée ensoleillée. Donc, j'ouvre la séance du conseil municipal. Et on va commencer par l'appel. Valérie Rialan, pour l'appel. Merci.
Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Christian Garnier. Madame Valérie Rialan. Madame Josiane Sicardi. Monsieur Pascal Campins. Madame Cécile Gomez. Monsieur Jean-François Plane. Madame Bérénice Bonal. Monsieur Jean-Michel Perratou. Monsieur Paul Moreau. Madame Céline Pratier-Guier. Madame Magali Vincent. Monsieur Denis Chambi. Madame Viviane Thiard. Monsieur Jean-Claude Vega. Madame Bénédicte Lemoigne. Monsieur Daniel Vestreau. Monsieur Daniel Duvoux. Madame Agnès Biazuto. Madame Valérie Aubry. Monsieur Jean-Marc Illich. Madame Dominique Roland. Madame Nicole Roux. Monsieur Lionel Riquelme. Monsieur Patrick Roas. Madame Nicole Vaca. Monsieur Frédéric Fior. Monsieur Stéphane Beltra. Madame Jennifer Dely. Monsieur Yves Parent. Madame Agnès Moscardini. Monsieur Olivier Durand. Monsieur François Meurier.
J'ai reçu les pouvoirs de Dominique Roland pour Jean-François Plane, Magali Vincent pour Cécile Gomez, Agnès Biazuto pour Jean-Marc Illich, Liliane Thiard pour Hervé Stassinos, Céline Pratier-Guier pour Valérie Rialan, Nicole Vaca pour Frédéric Fior et Jennifer Dely pour Yves Parent. Voilà, l'appel est fait. Ensuite, donc, je vais vous demander, on va commencer avec l'approbation du PV de la dernière séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Meurier. Durand, allez-y alors.
Merci, monsieur le maire. J'ai une question. L'application Le Pradé, elle est toujours active? Est-ce qu'il est possible de faire une mise à jour des élus? Parce qu'il y a certains élus qui ont déjà démissionné depuis 3 ans. Le Front National, pareil, ils ont changé depuis 2 ans. Et ils ont même changé de nom. À moins que l'appli ne soit plus active et plus de mise à jour, etc. À ce moment-là, juste Smart City. C'est ça?
Tout à fait. Juste fermer le micro pour que je réponde, parce que sinon, pas si... Non, alors on est en train de développer une nouvelle application. Celle-ci, ce n'était pas le top du top. Donc effectivement, on reste dans cette logique, comme on l'a dit, de Smart City, de donner un accès plus facile. Mais on est en train de développer une nouvelle application avec des accès notamment facilités pour les familles, parce que sur l'ancienne application, c'est une application qui buguait un peu toute seule, c'était pas l'idéal, donc on est en train de la changer, donc elle est plus active en fait.
Monsieur le maire, merci. Pourquoi pas, effectivement, mais c'est honnête de votre part de reconnaître les dysfonctionnements de cette application, mais il serait aussi honnête de considérer que une assemblée délibérante, des élus, c'est pas très compliqué d'un point de vue informatique de changer une photo et de changer un nom, et que malgré le fait que vous développiez une nouvelle application, vous pourriez mettre à jour votre assemblée délibérante. Merci.
Ouais, donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc abstention. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. On va pouvoir passer donc à l'ordre du jour. La première question à l'ordre du jour, c'est le rapport de suivi des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Comme vous le savez, la Chambre régionale des comptes est venue nous visiter il y a de ça quelques temps. Et ils ont fait un rapport avec 4 recommandations. Bon, le rapport dans son ensemble est plutôt bon. Je veux juste vous rappeler le résumé de la Chambre régionale des comptes. La situation de la commune du Pradet est globalement satisfaisante. La rationalisation des charges de gestion et la stabilisation des dépenses de personnel, dont le poids est élevé, a compensé la diminution des dotations versées par l'État. Tout en se désendettant depuis 2014, la commune a investi 4,8 millions en 2015 et 2016. Avec une capacité d'autofinancement brut représentant 14,6% de ses produits de gestion, soit 15,2 millions d'euros, un encours de dette maîtrisé et un fonds de roulement confortable, la commune dispose de réelles marges de manœuvre. Ça, c'était pour le global sur la Chambre générale des comptes. assorti de, ce bilan satisfaisant de la Chambre régionale des comptes, il y a quatre recommandations qui ont été émises par la Chambre régionale des comptes. La première recommandation, elle consistait à améliorer la qualité de l'information financière et budgétaire en ce qui concerne notamment le pilotage des investissements et le débat d'orientation budgétaire. Alors, le débat d'orientation, c'est devenu le ROB, en fait, hein, c'est devenu un rapport, un ROB, qu'on doit voter maintenant. Alors, on avait déjà anticipé, puisqu'on avait déjà amélioré la qualité financière du ROB, on avait donné déjà plus d'informations là-dessus, notamment sur la partie RH, on a mis beaucoup d'informations là, comme le veut la loi. Donc on s'était déjà mis en conformité avec les recommandations de la Chambre régionale des comptes, sauf que la Chambre régionale des comptes arrive en N+1, donc les efforts qui avaient été déjà mis en œuvre n'ont pas été repris dans le rapport. En fait, ils étaient quand même bien là. On en a rajouté pour quand même suivre les recommandations de la Chambre régionale des comptes et rajouter encore plus d'informations conformément à ce qu'exige la loi. Concernant le pilotage des investissements, une remarque nous a été faite par la Chambre régionale des comptes. Nous, on n'a pas souhaité, j'ai discuté avec pas mal de collègues maires et puis avec des petites et grandes communes, notamment la PCP, autorisation de programme crédit de paiement. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas adapté à une commune comme le Pradet, trop petite commune. Le processus est trop compliqué. Donc, on a bien un PPI qu'on a transmis d'ailleurs à TPM dans le cadre du transfert de compétences à la métropole. On a bien un PPI interne, mais ça ne fait pas l'objet d'une délibération pour mettre en place de programmes de paiement et de crédit de paiement, d'autorisation de programme, pardon, et de crédit de paiement. On va rester sur cette ligne. En revanche, bien sûr, quand on constate le degré de réalisation de la commune, on est dans la strate. Le niveau de réalisation d'investissement pour les communes de même strate, c'est 48%, on a 52%, donc 4% de plus, c'est quasiment identique. En gros, on a 50% de réalisation. La recommandation numéro 2, elle consiste à mettre en place une stratégie éducative formalisée avec un suivi effectif du prestataire auquel sont confiées les activités périscolaires. Donc là aussi, ce sont des observations de la Chambre régionale des comptes constituant des recommandations pour améliorer le suivi budgétaire des activités scolaires et périscolaires. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a mis en place, notamment on a mis en place un comité de pilotage et des réunions formalisées, parce que ce qui nous avait été reproché par la Chambre générale des comptes, c'est pas que les réunions ne se soient pas tenues, parce qu'elles se sont tenues. En revanche, il n'y avait pas eu de compte rendu. Donc la demande de la Chambre générale des comptes, c'est de faire des comptes rendus de réunions, ce qu'on fait maintenant systématiquement. Vous avez dans le document les dates des comités de pilotage qui sont retenus. Je ne vais pas tous vous les reprendre, mais que ce soit pour la mise en place du PEDT ou suivi du PEDT, suivi des marchés, tout est dans le document. Ensuite, il y a des visites inopinées des sites qui ont été réalisées. Là aussi, vous avez les informations en page 2 avec les dates. Et puis, on a fait des réunions de concertation et de bilan, notamment pour les vacances, préparation des vacances estivales, et puis les bilans qui sont organisés, notamment avec notre ancien prestataire qui était l'ODEL. Et vous le savez tous, on va changer puisqu'on va prendre un nouveau prestataire. On avait l'ODEL et on va passer avec la FOL à partir de septembre. Donc, on aura la même exigence vis-à-vis de la FOL pour le suivi des prestations concernant la commune du Pradet. La recommandation numéro 3 consiste à revoir la répartition dans la comptabilité fonctionnelle des dépenses réalisées au titre des compétences scolaires et périscolaires de la commune afin d'en offrir une vision consolidée. Donc, effectivement, c'est un problème d'imputation budgétaire. Alors, s'il y avait des opérations qui étaient réalisées pour les écoles qu'on mettait dans le chapitre CTM, donc on a rectifié le tir, et quand il y a des opérations qui se font au niveau des écoles ou du périscolaire, on remet ces opérations en termes d'imputation sur les écoles et on ne met plus ça sur CTM. Voilà. Alors c'est la recommandation numéro 3. La recommandation numéro 4, ça consiste à appliquer à la SAGEP un dispositif de contrôle analogue à celui que la commune exerce sur ses propres services. Donc là, il y a deux choses. Un, tous les projets qui sont confiés à la SAGEP sont complètement maîtrisés par la commune. On se tient au courant des appels d'offres en cours, du suivi de chantier, il y a des réunions de chantier, quels que soient les chantiers qui ont été réalisés à l'aide de la SAGEP. Tous ces chantiers font l'objet d'un suivi très, très serré de la commune. Et en plus de ça, soucieux de nous conformer aux recommandations, même si on a une divergence d'appréciation avec la Chambre régionale des comptes, il faut savoir qu'il y a 95% des opérations SAGEP qui ne sont pas sur le territoire de la commune. On ne va pas forcément s'amuser à aller éplucher tous les marchés qui ne concernent pas la commune. Nous, on se concentre sur tous les marchés qui concentrent la commune. Néanmoins, Il y a une réunion, deux réunions qui ont déjà été organisées avec la direction générale des services, avec la directrice générale et la SAGEP, pour être bien sûr d'avoir un suivi sur les opérations qui sont faites au niveau de la SAGEP et qu'on soit bien dans les clous. Et il y a aussi, j'ai aussi un représentant qui siège à la SAGEP et qui contrôle effectivement ce qui se passe au niveau de la SAGEP. Voilà. Donc, il y a une obligation légale de tenir au courant le conseil municipal des suites qu'on donne aux recommandations qui sont toujours faites par la Chambre régionale des comptes, qui nous aide aussi à améliorer le suivi de la commune. Nous nous y sommes conformés et on continuera à nous y conformer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a-t-il... Monsieur Meurier, allez-y. Avant que je peux vous poser des questions, il y a déjà deux questions. Monsieur Meurier, allez-y.
Alors, j'ai pris acte de la réponse que vous avez formulée auprès de la Chambre régionale des comptes, ainsi que des mesures mises en œuvre par rapport aux quatre préconisations de la Chambre que vous nous aviez communiquées lors du Conseil municipal du 25 juin 2018. Je rappelle néanmoins que la recommandation numéro 1 était l'amélioration de la qualité de l'information financière et budgétaire en ce qui concerne le pilotage des investissements et le débat d'orientation budgétaire. Or, je déplore que l'enregistrement audio du dernier conseil municipal dans lequel nous avons eu ce débat ne soit toujours pas accessible en ligne, donc sur le site internet de la ville. Pour ce qui est de la stratégie éducative avec le prestataire auquel sont confiées les activités périscolaires, c'est une bonne chose que de faire des visites inopinées, mais peut-être que les bras des temps, parents d'élèves, présents ou futurs, apprécieraient être mieux informés du bilan, des réussites ou des difficultés rencontrées, ce qui, là encore, nécessiterait une publication numérique transparente. Sur la SAGEP, je n'ai pas d'observation à faire particulièrement. La commune appartient au conseil d'administration et elle exerce son contrôle par lui. Vous venez de nous dire qu'il va y avoir un changement de prestataire pour les activités périscolaires. Qu'est-ce qui motive ce choix ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? Merci.
Je répondrai. Allez-y, vous avez une question ? Allez-y, M. Durand.
Une remarque de caractère global et deux ou trois questions. Alors, je vais juste reprendre mes notes. Si je vais intervenir essentiellement sur la recommandation numéro 2 de la Chambre des comptes, excusez-moi. Six réunions de suivi de PEDT, etc. C'est ça. 16 visites. Contrôle inopiné et des réunions de préparation et des bilans. C'est donc ça la définition d'une stratégie, d'une politique éducative. Il n'y a pas de vision un peu plus large de la commune. On ne parle pas de besoins exprimés des familles, des enfants, ou autre chose comme ça. C'est une vraie question, hein, parce que du coup, je m'en interroge. Donc, du coup, ma première question, j'ai du mal à lire. Autre question, là aussi, alors, je vais peut-être retourner vers Mme Gomez parce que je ne suis pas sûr de mon information, mais les PEDT, comme dans l'ensemble des communes du Var, ont été annulés en septembre 2019, puisque PEDT rimait avec la réforme des RIP qui a été annulée, et vous faites, vous continuez après septembre 2017 des réunions de concertation PEDT, mais ce dernier n'a jamais été renouvelé. Et dernière question, je dis sauf erreur de la parole, et alors je veux bien l'apprendre. C'est quoi le 2 mai 2019, donc la réunion, ça j'ai bien compris que c'était une réunion, mais le PEEJ, c'est une nouvelle abréviation des politiques éducatives sociales. Je ne connais pas, donc du coup, voilà, merci.
Oui, alors,
le cas échéant, je me permettrai de reprendre la parole, si vous en êtes d'accord.
Bien sûr. Déjà, alors, on ne parle pas de stratégie éducative, c'est vraiment un rapport de la Chambre régionale des comptes qui ne regarde qu'une chose, c'est les aspects budgétaires. C'est un peu le rôle de la Chambre régionale des comptes, ce serait la Chambre régionale de la politique éducative, ce serait peut-être autre chose. Alors on est vraiment sur la partie pilotage budgétaire, donc on ne parle que de sous. Donc c'est vraiment que ça. Alors après, il y a d'autres questions sur la politique éducative qu'on sera amené à discuter, notamment lors de la campagne qui va se présenter, mais il y a pas mal d'outils pour répondre à M. Meurier qui ont été mis en place pour informer les parents. Il y a le cahier des écoles, publication qui est en place depuis un petit moment. Je pense que Mme Gomez pourra peut-être répondre à certaines questions, si vous souhaitez, sur la fréquence. Il y a des commissions éducatives qui se passent. Je crois qu'il y en a une qui s'est tenue la semaine dernière. D'ailleurs, on pourra en parler pour informer tant l'opposition que les gens qui sont dans ces commissions. On a le conseil des écoles qui se tient régulièrement aussi pour parler de tous les besoins dans les écoles. On a ensuite un certain nombre d'outils qu'on met à disposition des parents. On a parlé du portail famille pour que les parents soient informés via email de choses qui arrivent dans les écoles, dans le périscolaire. Donc il y a un éventail d'outils qui ont été mis à disposition des parents, des familles, pour pouvoir communiquer avec l'équipe en place. Je pense que ça marche plutôt pas mal, parce que les conseils d'école se sont bien apaisés ces derniers temps. Je crois qu'il y a des questions, on essaie d'y répondre. C'est peut-être jamais parfait, mais enfin, je crois qu'il y a un gros travail qui est fait par les services techniques pour répondre aux besoins spécifiques des écoles. Il y a un gros travail qui est fait en termes d'offres éducatives. Ce n'est pas l'objet du tout de la discussion, puisque l'on est vraiment sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et puisque vous évoquez le sujet, je pense qu'on peut être fier de notre bilan dans un certain nombre de domaines, dont celui du service qui est apporté aux familles et des enfants, et de la jeunesse en particulier. Monsieur Meurier.
Oui, sur le prestataire, du coup, pourquoi vous voulez changer
Oui, merci. En fait, alors on est un peu tenu par la règle du marché, en fait, hein, parce que quand on est sur un marché ou une DSP, il y a toujours des règles qui font qu'au bout de les marchés, ils ont une durée de vie variable en fonction des marchés. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Je sais pas, on peut peut-être aller au-delà sur les gros marchés ou sur des DSP. On peut faire des DSP à 15, 20 ans. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles en termes de régulation de la commande publique. Voilà. Et là, on était sous un marché qui s'achevait. Donc, il fallait relancer un marché. On a relancé un marché. On a eu essentiellement 2 offres sur lesquelles on s'est interrogé. On avait d'ailleurs sans trahir, hein, parce que M. Parent était là en commission d'appel d'offres, parce que c'est un des éléments de transparence qu'on amène aussi en termes sur la gestion de la commune. On fait des commissions, l'opposition est là, elle peut dire son mot, M. Parent était là. On a eu 2 offres, dont une qui nous paraissait assez basse, puisqu'elle était 90 000 euros en dessous. On a même été jusqu'à demander des explications au prestataire qui était beaucoup plus bas, parce qu'on ne voulait pas prendre de risque pour la qualité qui va être rendue auprès des temps. On a eu des garanties sur la qualité de service qui va être rendue auprès des temps. Donc, on est passé, conformément à ce qu'oblige la loi, la commande publique, et notamment toute la législation liée au marché, on est passé avec le prestataire qui avait, à prestation identique, le coût le moins élevé, avec une différence assez notable en termes financiers.
Non, les 2 dernières questions. Si ce n'est pas des réponses.
Franchement, le PPEJ, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si Mme Gomez peut-être pour répondre.
Oui, oui. Savoir, ça m'intéresse.
Alors, très rapidement, oui, effectivement, depuis le retour en arrière du gouvernement sur les rythmes scolaires, donc il n'y a plus de PEDT obligatoire, mais on a souhaité garder justement une instance de concertation avec les différents partenaires jeunesse, les parents, les élus, les différents partenaires qui interviennent sur le temps scolaire et périscolaire, pour garder une concertation, un dialogue, etc., sur tout ce qui est fait au niveau éducatif pour les jeunes de l'enfance à la jeunesse. Et ce que l'on a appelé PEEJ, Projet éducatif enfance et jeunesse. Voilà.
Merci pour cette précision. Donc, on y voit plus clair. Donc, on est bien d'accord que le PEDT de la commune s'est arrêté en septembre 2017, dans le cadre de la réforme que vous évoquiez, et que le projet éducatif enfance jeunesse, c'est ça, c'est pas quelque chose de contractuel avec l'ensemble des partenaires, c'est bien une dénomination pradéto-pradétale sur un espace que vous avez décidé dont acte. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. D'accord. Donc il n'y a pas de cadre contractuel avec l'ensemble des partenaires. Je profite du coup, je m'excuse. Hein,
si le cadre contractuel, ça reste avec le CEJ.
Ah, le CEJ, bien sûr.
Contre enfants jeunesse avec les partenaires, notamment financiers.
Pas de souci. Parce que du coup. Juste 2 réflexions par rapport à ça. Le PEDT, les autres communes, certaines autres communes ont souhaité quand même le poursuivre et ont fait le choix de le poursuivre. Je ne parle pas de la réforme des rythmes scolaires, hein, mais en termes de stratégie et d'investissement de l'ensemble des partenaires éducatifs. Est-ce que vous avez porté une réflexion sur l'aide locale des plans mercredi, puisqu'il y a l'appel à projet qui est en ligne sur la caisse d'allocation familiale?
Ce que je propose, c'est une question qu'on peut aborder. Non, mais c'est très bien. On a un ordre du jour qui est quand même assez conséquent. Là, on se donne des
raisons.
Ce que je propose, non, mais monsieur Durand, nous, on est très ouverts de parler de tout ça. Il n'y a aucun problème. Ce que je propose, c'est d'épuiser l'ordre du jour et on reviendra en question diverses sur le sujet ou lors d'une commission ou lors d'une réunion en mairie avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont. Monsieur Fior, allez-y.
Merci, monsieur le maire. Juste quelques observations quand même pour remettre une parcelle de vérité. Ce rapport à la Chambre régionale des comptes, vous l'avez souhaité, vous l'avez eu, vous l'avez souhaité au départ pour démontrer que les comptes étaient dans le rouge, que vous aviez stigmatisé dans Barmatin en disant que vous aviez pris une mairie à l'agonie avec des comptes dans le rouge, des déficits partout, des factures qui traînaient, une absence de pilotage et que c'était une catastrophe. Et donc, vous avez demandé au préfet de demander l'intervention de la Chambre régionale des comptes. Et, malheureusement pour vous, la Chambre dit tout le contraire de ce que vous aviez évoqué dans la
situation est très 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 difficile, ce qui était faux et ce qui l'est toujours. Et donc, grâce à vous, maintenant, la situation va mieux. Regardez, la chambre dit que ça va mieux. Bon, très bien. Je ne veux même pas commenter plus que ça, mais la vérité n'est pas dans vos propos. Deuxième élément, vous nous indiquez que vous contrôlez la SAGEP et qu'au moment où on s'est interrogé sur votre choix d'utiliser la SAGEP, vous nous avez expliqué il y a 4 ans en arrière, ou 5 ans, que la SAGEP était un outil performant, que vous alliez gagner du temps, gagner de faire des projets très importants, très difficiles, s'il y avait du vrai savoir-faire, et que, in fine, c'était un choix politique de votre part. Très bien. 5 ans après, on s'aperçoit quoi ? Que la SAGEP n'a pas fait la preuve de sa compétence, ni de sa performance sur la réalisation des projets que vous lui avez confiés. Moi, je vois un CTM qui a mis 4 ans à être inauguré. Je vois un pôle culturel qui n'est toujours pas en état de fonctionner. Je vois 100 000 euros qui sont dépensés pour la SAGEP. Donc, très bien, on note. Vous nous expliquez que c'était le bon choix. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Sur l'éducation et votre vision du rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'éducation, contrairement à ce que vous dites, la Chambre, quand elle fait un contrôle thématique sur une politique éducative, elle fait un contrôle thématique sur une politique, pas sur un choix budgétaire ou sur un choix comptable. Elle analyse une politique éducative. Donc, vos propos sont erronés en la matière. L'appréciation qu'a apporté les magistrats de la Chambre sur votre politique éducative, ils sont durs, ils sont réels, mais ils sont sur la politique éducative, ils ne sont pas sur la comptabilisation de telles dépenses. Enfin, vous dites, et ça c'est quand même assez étonnant parce que c'est ce qu'on dit depuis 4 ans, 5 ans, on vous dit à chaque compte administratif, vous n'avez pas fait la moitié de ce que vous nous avez dit. Et vous dites, non, mais si, on a fait. Et là, le magistrat dit, vous ne faites pas 50% de vos dépenses d'investissement annoncées dans un primitif et validé par une assemblée délibérante, et vous lui répondez si, monsieur le magistrat, regardez, on fait 52%. Magnifique. Et regardez les autres, la commune de la Strat, c'est 48%. Ouais. Je sais pas à quel exercice se réfèrent les 48% de taux de réalisation des dépenses d'investissement des communes de votre strate, mais quelle qu'en soit l'année, c'est très très faible comme taux de réalisation et c'est un manque de sincérité évident parce que quand on annonce au budget qu'on va faire tel investissement, tel investissement, tel investissement et qu'il y en a pour 5, 6, 8, 10, vous êtes allé jusqu'à 14 millions et qu'au final vous ne faites même pas 50% de ce que vous dites, ça pose quand même un vrai problème démocratique.
Merci de votre intervention. C'est pas fini ?
Si, je reprendrai la parole quand je voudrai. Merci.
Il n'y a pas d'autres questions à passer au vote ? Il n'y a pas de questions, en fait. C'était des points de vue que je ne partage pas, mais vous avez le droit de les exprimer, il n'y a pas de problème. Allez, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Il n'y a pas de vote si on suit vos délibérations et ce que vous nous écrivez. Il n'y a pas de vote, mais on est prêt à voter, nous, hein, si vous
voulez. Bon, il n'y a même pas de vote. Alors, parfait.
Parce que quand il y a des votes, vous ne nous faites pas voter, et là, il n'y a pas de vote.
En plus, je vous épargne le vote. C'est magnifique. Tout à fait. Alors, question numéro 2, ça concerne la garantie d'emprunt à la SA d'HLM, Prolet Azur, l'opération Nostaou. Jean-Michel Perrin.
Garantie d'emprunt de la SA d'HLM, Prolet Azur, opération Nostaou. Chemin des Gravettes, allongement de la dette. Prolet Azur a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantie par la commune du Pradet. En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement des dites lignes des prêts réaménagés. Il j'ai proposé au conseil municipal de valider les éléments suivants et autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à leur mise en œuvre. Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prairie aménagée initialement contractée par l'emprunteur auprès de la caisse des dépôts de consignation. Selon les conditions définies à l'article 2 et référence à l'annexe, caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées. Concernant les lignes de prêts réaménagées à taux révisable indexé sur le taux du livret A, le taux du livret A effectivement appliqué aux dites lignes de prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur de réaménagement. Le conseil municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Merci. Des questions, M. Fiorenzi, M. Morillon ensuite.
Merci. J'avais une question. Quel est le montant du capital qu'on couvre à ce jour?
Alors, dans l'annexe, on a les montants réaménagés. Il y a un montant à 204 603 qui était prévu à 18 ans initialement. Ils ont rallongé de 5 ans pour le faire à 23 ans. Et le taux du livret A, l'indexation était de 1,2 au-dessus. Là, ils ont redescendu à 0,6. Le deuxième, c'est 94 264. Il était à 18 ans. Ils l'ont rallongé de 10 ans pour le passer à 28 ans. Et il était au taux du livret A à 0,7. Et là, il est au taux du livret A à 0,6.
Monsieur Perracou, merci pour ces éléments d'explication, mais ma question était, quel était le montant du capital qu'on remboursait à ce jour? Si je vous posais cette question, c'est parce que les annexes, le contrat date de juillet 2018, qu'on est un an après, que jusqu'à preuve du contraire, les délibérations n'ont pas d'effet rétroactif, et donc que vous nous demandez de garantir un emprunt dont le montant du capital à ce jour doit être, à mon avis, mais inférieur au montant que vous nous avez cité là. Et donc, comme notre vote n'intervient que ce jour, je voulais savoir à ce jour quel était le montant du capital. Mais ce n'est pas très grave, on va voter pour M. Perratou. Mais il y a quand même une question qui m'interpelle, c'est comment se fait-il qu'on mette un an pour passer une délibération comme ça?
Les motifs qui justifient l'allongement de cette dette, et puisque c'est le Pradé qui se porte garant pour le remboursement de ce prêt, qu'est-ce que les Pradétans gagnent en échange de cette garantie?
Demander la baisse des loyers sociaux. En compensation, ils ont permis la renégociation des prêts. Dans cette renégociation, il y a l'allongement de la dette et la renégociation des taux.
Je vois complètement sur le sujet, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des commissions dans lesquelles il y a des représentants de l'État, du département. Mais nous, on pousse, hein, ce qu'on fait, on y était la semaine dernière, sur les commissions. Je pense que c'est fait à chaque fois. Toutes les municipalités, on cherche tous à loger le maximum de prédétants. Mais on n'a pas ce qu'on appelle les quotas. Tous les quotas ne sont pas des quotas mairie, malheureusement. Il y a une partie qui est quota mairie, il y a une partie TPM sur laquelle on a au moins à dire. Le quota bailleur social, le quota préfecture, c'est un dispositif qui est assez complexe. C'est censé faire assurer une égalité devant les commissions. Voilà, c'est ce qui est fait. Donc, nous, systématiquement, on essaie de placer les gens du Pradet. Qui apprend commission, des fois on place des gens du Pradet et des fois on peut pas. Nous on pousse systématiquement et vous seriez dans la commission, vous feriez la même chose. J'imagine qu'avant c'est ce qui se passait aussi, on pousse forcément pour avoir des Pradetans, c'est ce qui nous intéresse. On va passer au vote. Qui est contre? Alors, je refais. Qui est contre? Abstention. Une abstention pour. Je vous remercie. Question numéro 3, il s'agit du tableau des effectifs, Pascal Campins.
Alors avant de vous donner lecture de la. Délib numéro 3, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Madame Lefebvre Claudie, hein, qui est l'épouse de Jean-Luc, hein, qui est très, très affectée, hein, que j'ai eu au téléphone ce matin. Voilà, donc pas de minute de silence, bien sûr, mais une petite pensée pour elle, puisque voilà, c'est quand même un agent qui est apprécié, je crois, que chacun d'entre nous. Voilà, merci en tout cas pour lui. Alors, sur la délib numéro 3, elle concerne donc la modification du tableau des effectifs. Ce tableau des effectifs doit être modifié afin de tenir compte des recrutements, remplacements suite à des départs et des prévisions d'avancement de grade pour l'année 2019. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à jour du tableau des effectifs qui porte sur la création de 19 postes. 6 adjoints principaux de première classe, 2 techniciens principaux de première classe, 3 adjoints techniques principaux de première classe, 2 adjoints techniques, 1 cadre de santé de première classe, 2 éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, un adjoint du patrimoine de deuxième classe, 2 adjoints d'animation principaux de deuxième classe. Vu l'avis favorable du comité technique rendu à l'unanimité le 7 juin 2019, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau tableau des effectifs en date du 17 juin 2019.
Merci. Monsieur Fior.
Merci. Deux sujets dans ma question, enfin deux questions. Proposer de créer 19 postes, pourquoi pas, a priori on vote pour. Néanmoins, vous nous donnez un tableau des effectifs qui fait apparaître 242 emplois et 97 postes vacants. Est-ce que, en termes de sincérité, là encore, est-ce que c'est correct? Pourquoi on a 97 postes vacants? Ça c'est le premier point. Et deuxième point, puisque vous changer le tableau des effectifs, pourquoi vous ne supprimez pas les 97 postes que vous ne souhaitez pas remplir, sauf si vous avez nous annoncé que vous recrutez 100 personnes. Bon. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, le premier volet, il est généraliste. Le deuxième volet, il est personnel. On a un agent dans cette collectivité qui s'appelle Bruno Carlier et j'aimerais savoir où en est sa situation. Parce que j'ai cru. Moi je le nomme. Oui, mais je vous pose une question. Mais si c'est autorisé. Et elle sort d'où cette loi? Non mais allez-y, dites-moi, quelle est la loi qui interdit de citer le cas d'une personne qui est au contentieux, a priori, et donc c'est public. Donc je vous demande un point de situation sur sa situation personnelle, parce qu'a priori, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi, que la commune. Me semble-t-il, ou vous allez me démentir, hein, mais qui ne travaille plus pour la commune, qui est au centre de gestion ou ailleurs, je ne sais pas. Et donc je vous demande, parce que c'est quand même de l'argent public, je vous demande de nous faire un point de situation sur cette situation personnelle. Merci.
Alors je sais que c'est votre dada, le tableau des effectifs. Alors, parce qu'à chaque fois, vous permettez que je réponde à votre question, vous m'interpellez, je vous réponds. Donc, effectivement, le tableau des effectifs, c'est toujours matière à discussion. Les 97, on va vous répondre. Le tableau des effectifs, c'est un tableau vivant. C'est vrai que pour les 97, vous avez aujourd'hui une surenchère de postes, puisqu'on est dans la mouvance aujourd'hui des avancements. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des agents qui vont évoluer et qui sont encore sur leur ancien grade. Donc, il y a une espèce de redondance qui fait qu'on a, grosso modo, 20 à 25 postes qui devrait disparaître du tableau des effectifs sur une prochaine mise à jour. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de création de postes, hein, puisqu'on est sur du renouvellement, c'est expliqué en début de note de synthèse, et qu'après c'est simplement du déroulement et effectivement des avancements de grade pour les agents. En ce qui concerne les 97, je vous ai répondu. En ce qui concerne M. Carlier, à une époque, il avait fait le choix d'être en... Deux choses. Hein, il a fait la demande à un moment d'un détachement. Bon, aujourd'hui, derrière, il y a eu une réorganisation. La réorganisation fonctionne plutôt bien. M. Carlier continue d'être rémunéré par la commune. Voilà, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Merci Pascal. Monsieur Fior.
Merci Monsieur le maire. Donc Monsieur Campins, merci pour vos explications. Je reprends la délibération que vous m'en faites passer. Je lis sur la création de 19 postes. Donc vous êtes en train de m'expliquer qu'en réalité, il n'y a pas de création de 19 postes, c'est ça ? Dans votre intervention, et vous m'écrivez exactement le contraire dans votre délibération. Premier point.
Une fois de plus, on joue sur les mots.
Ah non, moi je ne joue pas sur les mots, je lis ce que vous avez
écrit. Les gens évoluent dans leur poste. Ah. Donc effectivement, on peut considérer que ce sont des créations de postes.
Vous avez écrit deux. C'est pas moi. Moi. Bon, non, mais je suis désolé. Moi, je lis qu'il y a une création de 19 postes. Bon, si les gens évoluent dans leur poste, ça suppose intellectuellement qu'ils en abandonnent un autre. Hein, s'ils en prennent un au-dessus, ça suppose qu'ils abandonnent celui qui était en dessous. Donc on a quand même, malgré tout ce que vous nous dites, vous êtes bien dans la volonté de créer des postes, mais vous ne mettez pas votre tableau à jour, parce que les gens qui ont quitté ce poste-là, y a plus de, le poste devient vacant. Et donc on a 97 postes vacants sur 242. Si vous estimez que c'est une bonne gestion, c'est un reflet fidèle du tableau des effectifs, très bien. Mais permettez-moi de ne pas du tout partager votre point de vue. Alors, on va créer, on va voter hein, les 19 postes, mais ce n'est pas correct. Voilà.
Bonjour, merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Qui est pour ? Je vous remercie. Question numéro 4, toujours Pascal Campins, ça concerne le règlement intérieur des CHSCT et du CT.
De synthèse numéro 4, règlement intérieur du comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail et du comité technique. Lors du conseil municipal de mars 2019, la collectivité a acté la création d'un CHSCT officiellement distinct du comité technique pour la mairie et ses établissements attachés, CCAS et résidence autonomie. Il est à présent nécessaire d'adopter un règlement intérieur pour chacune des instances, précisant la répartition des missions et des modalités de fonctionnement. Les règlements intérieurs ci annexés ont été présentés au comité technique et CHSCT du 7 juin et approuvés par les membres y siégeant. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption du règlement intérieur du CT, sur l'adoption du règlement intérieur du CHSCT, sur l'autorisation donnée à M. le maire de signer ces règlements.
Merci. Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. J'en profite pour dire que le CT s'est tenu la semaine dernière dans de très bonnes conditions, dans un dialogue respectueux des intérêts, tout à fait un climat tout à fait apaisé avec les agents. Ça se passe très très bien. Alors, questions numéro 6 et 7. Christian Garnier, ça concerne les acquis. Et bien sûr, et bien sûr. La 5, la 6 et la 7, ce sont des questions foncières. Christian Garnier.
Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit du bilan des acquisitions des cessions foncières réalisées en 2018 par la commune du Pradé et également les acquisitions réalisées par la commune, mais pour le compte de TPM, puisqu'on a basculé là, tout ce qui est voirie sur la métropole. Alors, en ce qui concerne la commune, une acquisition, la place Charles de Gaulle, le 28 décembre 2018, pour 210 000 euros, ce sont les locaux situés sous la poste. Voilà. Ensuite, les acquisitions que nous avons initiées et qui sont officiellement acquises par TPM dans le cadre du transfert des compétences. Acquisition, donc, à la première DFL de la SNI, au profit de TPM,
ce sont les divisions volumétriques de l'immeuble de la DCI pour la partie arrière sur laquelle il y a eu une rétrocession pour la commune du Pradet pour l'aménagement de l'accès. En deuxième lieu, nous avons l'avenue Jean Moulin, la RD 86. Il s'agit de l'acquisition que nous avons menée pour l'acquisition de la bande cyclable qui vient d'être réalisée et qui permet enfin la jonction entre le parking de la bâtie et la piste cyclable qui arrivait côté la garde, qui arrivait par le côté de la garde, côté nord. Donc cette acquisition donc, c'est réalisé puisque même les travaux sont finis à ce jour et vous avez une voie verte qui continue maintenant jusqu'à la garde. Et enfin, le dernier, toujours pour le compte de TPM, nous avons fait l'acquisition donc, du parking du Pengal, c'est-à-dire d'une parcelle de terre appartenant à Mme Fioretto qui a été cédée dans le cadre de l'aménagement du petit lotissement qui est à côté et qui a été acquise pour la somme de 74 500 euros et qui va servir d'aménagement d'un parking pour le Pengal. Ces aménagements vont se réaliser probablement juin. Voilà. C'est un peu tard dans la saison, mais c'est toujours très difficile d'avancer dans les programmations de travaux. Merci. Merci à vous. Monsieur Meurier.
Où apparaissent les cessions foncières réalisées en 2018, notamment donc celles qu'on a votées en conseil municipal le 12 février 2018 et le 24 septembre 2018.
La question c'est.
En fait, là, on a les acquisitions. Mais on n'a pas les cessions. À moins que c'est moi qui ai mal lu, j'ai peut-être mal.
Il n'y a pas eu de cession.
Ouais, comme je vous dis, en conseil municipal, on a voté une cession et une vente aux enchères d'un terrain communal.
C'est ça, c'est pas réalisé.
D'accord.
C'est pas réalisé.
Donc et pareil pour la cession, cession foncière avenue Ganzin. Donc, qu'on a voté le 12 février 2018.
Oui, mais elle n'est pas active encore. C'est dans les tuyaux.
D'accord. Bon, j'en prends note.
Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Abstention. Alors, une abstention, M. Meurier.
Abstention. Oui.
Et pour le reste. Donc, merci. Question suivante. Question. C'est à 6. Acquisition de la parcelle 26. Dans la suite du chantier de l'entrée du Pradet côté ouest, c'est-à-dire la mise en sécurité de cette entrée et de la contre-allée notamment, il restait à purger une partie de terrain sur la parcelle de la copropriété qui est en bordure du rond-point. Donc c'est la dernière parcelle sur laquelle il y a eu des petites modifications de surface à l'exécution des travaux, donc il fallait régulariser après les travaux. C'est cette régularisation-là que je vous propose. Si, pas de questions, le vote contre, abstention pour unanimité, je vous remercie. Question numéro 7. Ah, une abstention, oui. Soit je vais trop vite, soit vous avez passé vite, je ne sais pas. Ah bon, d'accord. Et ensuite, question numéro 7, donc. Alors. Cette question-là concerne le Clos des Vignes. Alors, ça fait partie des très nombreuses situations foncières dans lesquelles il y a des erreurs ou des oublis. J'en ai toute une réserve, comme ça. Je ne peux pas toutes les passer. Ça coûterait trop cher en géomètre et en frais de notaire. Donc, j'en fais passer de temps en temps, comme ça, pour essayer de rattraper toutes ces erreurs. Alors, celle-là, ça fait partie de parcelles qui était dans le cadre de l'ASL du Clos des Vignes et qui avait cédé évidemment les voies et les espaces communs du lotissement à la commune. On s'aperçoit qu'on est propriétaire d'une parcelle AC0236 de 15 mètres carrés située rue des Vendanges, mais qu'en réalité elle est occupée par un garage qui appartient à un tiers. Pourquoi? Parce que vraisemblablement le notaire ou ceux qui avaient fait la préparation de ces sessions avaient dû se prendre les pieds dans le tapis, excusez-moi du terme, et donc on se retrouve avec des inversions de parcelles. Donc on va céder la parcelle qui est occupée par un garage, par un tiers, on va la céder à ce tiers-là, lequel est propriétaire d'un autre garage
pour lequel le propriétaire du garage va également faire la cession. Et en troisième, on va récupérer la parcelle qui est libre de toute construction. Et c'est celle-là vraiment qui fait l'objet, normalement, de la propriété de la commune. Une fois qu'on l'aura fait, je viendrai à nouveau devant vous pour vous proposer de la céder, parce que c'est une parcelle de 15 mètres carrés située entre les garages, qui ne présente aucun intérêt, sinon de servir de dépôt d'ordures éventuellement, et sur lequel on a beaucoup de difficultés d'entretien. Voilà. Monsieur Fior, une question, allez-y.
Merci. Pour la bonne information du Conseil, j'aurais aimé savoir la date des actes que l'on va régulariser, puisque ce qui est tellement d'erreurs, j'aimerais bien pouvoir la rattacher à...
Ça date de la fin de l'ASM du Clos des Vignes, ça doit avoir une dizaine d'années, une quinzaine d'années.
Merci. Donc ça me va comme réponse.
Je pense. Mais je vous donnerai la date exacte, je ne l'ai pas.
Non, mais
je ne connais pas par cœur.
Ça va, on assume le poids des héritages qu'on prend quand on est élu, il n'y a aucun problème. S'il faut assumer les 15 dernières années, on assume les 15 dernières années, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien de l'avoir dit. Merci. Deuxième élément, vous nous expliquez donc qu'on régularise la situation pour se retrouver propriétaire d'une parcelle qui n'a aucun intérêt et qu'on va céder. J'espère qu'on va la céder pour moins de 2000 euros.
Plus que ça.
Parce que sinon...
Elle est estimée à... Plus de 2000 euros, rassurez-vous.
Le 15 mètres carrés ?
Oui.
Et elle va devenir quoi ? Elle est constructive ?
Ah ben je pense que c'est quelqu'un qui va l'acheter pour agrandir son garage ou faire un garage. Tout simplement, parce qu'elle a exactement la forme des parcelles des garages.
D'accord, donc c'est quelqu'un du lotissement ?
Je pense, je pense.
D'accord, et donc elle est constructive si on peut faire un garage ?
Complètement.
D'accord. Merci pour toutes ces informations.
Merci, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Bravo.
Donc j'étais lentement cette fois-ci. Hein. Donc unanimité si j'ai tout compris. Voilà. Alors question numéro 8 maintenant, ça concerne la convention régissant la mutualisation de la formation sauveteur secouriste du travail, SST, entre la commune et le CCAS. Pascal Campas.
Donc la convention régissant la mutualisation de la formation sauveteur secouriste du travail, SST, entre la commune du Pradé et le centre communal d'action sociale, CCAS. Le partenariat entre la ville du Pradé et le Centre communal d'action sociale est régi par une convention signée le 11 mars 2010, modifiée par voie d'avenant les 8 novembre 2010, 6 juin 2016, 9 avril 2018 et 10 décembre 2018. Elle a entre autres pour objectif de développer des pratiques communes et d'établir une meilleure homogénéité de fonctionnement de notre organisation. Face aux contraintes économiques et aux enjeux de la modernisation des services publics et dans un souci d'efficience, la ville du Pradé et le CCAS se sont accordés sur la nécessité de revoir cette convention. En application de la circulaire du 2 octobre 2018 qui a pour objet la formation de 80% des agents publics aux gestes de premier secours avant le 31 décembre 2021, la commune du Pradé, le CCAS et la résidence autonomie ont souhaité s'unir pour mettre en place des formations au premier secours. L'avenant 6 juin modifiant la convention 11 mars 2010, signé entre la ville du Pradé et le CCAS, rendra possible la mise en œuvre de la formation sauveteur secouriste du travail des agents du CCAS par un agent de la commune formateur SST. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 5, 6 juin, à la convention du 11 mars 2010, signé entre la ville du Pradé et le CCAS.
Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 9, Madame Gomez, pour le règlement de fonctionnement du multi-accueil, le jardin des Pichounes.
Dans le cadre de la rénovation et de la restructuration du multi-accueil, le jardin des Pichounes, et pour répondre à la demande de la CAF et de la PMI, il convient de mettre à jour le règlement de fonctionnement actuellement en vigueur. Ce projet a fait l'objet d'une validation par les services de la protection maternelle infantile et la caisse d'allocation familiale. Par ailleurs, une commission municipale éducation famille a été organisée le 11 juin 2019. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes du nouveau règlement de fonctionnement de la structure tel que présenté et joint à la présente note.
Si, pas de questions. Monsieur Fior.
semaine.
Parce que dans, dans
après, pour toutes les questions, voilà, y a une commission éducation qui s'est tenue justement le 11 juin. C'est un petit peu dommage qu'aucun de vous n'ait été présent. Vous n'ayez même pas répondu à l'invitation. Parce que ça aurait été l'occasion de, d'en parler, d'échanger, de faire vivre la démocratie. J'ai invité les membres de la commission.
Est-ce que je suis membre?
Non, mais vous discutez entre vous, j'imagine.
Attendez, là c'est à moi de vous parler. Donc, je vous pose une question. Est-ce que je vous m'avez invité et est-ce que je suis membre? C'est moi qui vous pose une question.
Vous n'avez pas été invité, vous n'êtes pas membre.
Merci.
Monsieur Durand-Létier, vous auriez été plus discuté.
Je suis membre. J'en suis membre.
Oui.
Alors, je vous assure, Madame Gomez, je serais venu avec le plus grand des plaisirs. Je n'ai reçu aucun mail à ce sujet-là. Vous connaissez mon appétence pour ces thématiques-là, quand même. A priori, je serais venu immédiatement.
Voilà. Oui.
Ah, mais si. Non, j'arrête sur le mail.
Bon, mais moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'on intervient... se prennent une leçon, mais moi je cherchais pas à avoir un questionnement, je cherchais à vous à améliorer les choses. C'est-à-dire que dans votre règlement local, dans votre règlement de fonctionnement, vous écrivez une chose qui est fausse. Donc soit je le dis pas et puis vous en rendrez compte. Voilà, soit je le dis et.
Alors qu'est-ce qui est écrit qui est faux, monsieur Fion?
Voilà, merci.
Allons-y.
C'est page 20, vous écrivez la participation familiale est recalculée au 1er janvier de chaque année pour l'année civile. Or, il se trouve qu'il y a une circulaire qui est sortie au mois de juin sur le multi-accueil qui prévoit une revalorisation des tarifs au 1er septembre. Et donc, le règlement que vous nous fixez là, il est juste aujourd'hui, mais au 1er septembre, non. Voilà. Et donc, ce n'est pas une revalorisation annuelle qui va s'appliquer, c'est une revalorisation au 1er septembre 2019. Je tiens à votre disposition la circulaire, si vous voulez. Voilà. Mais c'est juste pour vous éviter d'avoir des parents qui vous disent au 1er septembre que le règlement que vous leur avez fait signer ne correspond pas à la réalité, que vous allez leur facturer. Merci.
Merci beaucoup. On va passer au vote sur votre question. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10, ça concerne la convention d'objectifs et de moyens concernant l'association Les Petits Écrans. Valérie Riel, merci.
Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il s'agit de renouveler la convention d'objectifs et de moyens concernant le développement de l'art cinématographique au Pradé, donc entre la ville du Pradé et l'association Les Petits Écrans. L'association s'engage ainsi à mettre en œuvre son activité conformément à son objet associatif déclaré, le développement du cinéma, et à réaliser les actions relatives à son projet. La ville de Pradé s'engage de son côté à soutenir financièrement l'association Les Petits Écrans par le versement d'une subvention et par la mise à disposition d'une salle de spectacle et de ses équipements annexes. Donc l'objectif est double, proposer des films grand public et des films d'art et essai, en privilégiant une action de proximité afin d'inscrire la ville du Pradé comme lieu reconnu d'échange autour de ciné-débats et de rencontres avec les artistes. Donc c'est un renouvellement, donc on continue dans un élan qu'on a déjà initié. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de cette convention. Je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Fior.
Merci. J'aurais voulu savoir si une procédure d'appel à concurrence ou de publicité avait été mise en œuvre pour attribuer la gestion du cinéma à cette association. Et si la réponse est non, est-ce qu'on doit considérer que cette association est devenue propriétaire du cinéma du Pradé et aura de manière systématique le renouvellement de cette convention?
d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Numéro 11, ça concerne la demande de subvention complémentaire au profit des associations Art et Musique et Énergie Forever Forever. Madame Brialand.
Merci Monsieur le Maire. Il s'agit d'attribuer des subventions en complément de subventions globales de fonctionnement initialement attribuées aux associations lors du conseil municipal de vote du budget annuel. Je vous propose, alors pour les associations, pardon, Énergie Forever et Art et Musique, afin de soutenir les dépenses liées à leurs différentes actions. Donc 1 000 euros pour Énergie Forever et 200 euros pour Art et Musique, ce qui fait un total de 1 200 euros. Donc je vous propose d'autoriser M. le maire à autoriser la version de ces subventions. Merci.
Merci Valérie. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Et ensuite, les décisions en communication dont vous avez dû prendre connaissance. Et c'est la fin de ce magnifique conseil municipal et le début d'un bel été. Avant de clôturer comme ce conseil municipal, je donne la parole à M. Fior qui la demande.
Merci, M. le maire. Je voulais vous interroger sur une problématique qui nous a été soulevée par des riverains sur l'installation, sur les nombreuses installations d'antennes relais radio téléphonique. Alors, bien sûr, vous êtes au courant de celle du stade de la Bâtie, puisqu'on a délibéré sur le sujet, mais c'était pour installer une antenne. J'ai cru comprendre que maintenant, il y en avait trois, donc je voulais avoir quelques explications de votre part là-dessus. On a été saisi également de l'antenne sur les Opalines, à proximité de l'école Charles Sandro, donc ça nous interroge fortement. Voilà. On voudrait savoir si c'est une nouvelle antenne, si une étude d'impact a été faite, si elle est à moins de 300 mètres ou plus de 300 mètres de l'école Charles-Sandro, parce que de visu, elle nous semble quand même très proche. Et puis, sur ces antennes relais, on a des antennes 2G, 3G, 4G, qui ont des bientôt 5G, vraisemblablement, qui ont des puissances d'émission relativement différentes et à titre personnel, on n'est pas capable de savoir si c'est une antenne 2G, 3G, 4G ou 5G. Donc en fait, on voudrait comprendre d'une part pourquoi il y a cette multiplication a priori soudaine et d'autre part, quelles mesures de précaution vous êtes en capacité de nous proposer pour, si ce n'est sécuriser l'environnement, au moins rassurer les gens. Merci.
Vous avez raison, il faut toujours rassurer les gens, surtout qu'il y a toujours quelques, je sais que ce n'est pas du tout votre cas, mais il y a toujours des gens qui essayent d'agiter un peu les peurs, d'essayer de créer des polémiques où il n'y a pas lieu d'être. Je sais que vous ne faites jamais, où il n'y a pas de problème, mais des gens pourraient le faire. Donc, c'est bien de pouvoir rassurer la population, voilà, notamment le ciel nord-ouest, qu'on voit très actif sur le sujet en ce moment. Alors, on a fait un petit décompte. Sous la précédente municipalité, il y a eu 9 antennes relais installées, on en a 9, donc je dirais 9 à 9 pour l'instant. Peut-être qu'on en mettra une dixième, on aura un petit peu d'avance, mais on est sur le même nombre d'antennes relais installées. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement et du numérique, la loi Elan, qu'on connaît tous, qui incite en fait, qui aide au déploiement des antennes relais, notamment pour couvrir le territoire, parce qu'on parle aujourd'hui peut-être de trop d'antennes sur le problème, il y a des territoires qui parlent de zones blanches. Alors il faut savoir qu'on est toujours tiré entre les gens qui trouvent qu'il y a trop d'antennes et puis les gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de couverture. C'est un peu comme pour la fibre optique. Ça y est, la fibre optique est bien avancée en termes de déploiement. On continue à pousser. Il y a effectivement du 3G, du 4G, il y a même du 5G qui arrive. Puis après, il y aura une 6e génération, une 7e génération. L'évolution, elle est ainsi. Alors, il y a des rôles. Les rôles des uns et des autres, c'est très encadré. Très, très encadré, les antennes relais. Ça ne s'installe pas comme on veut. D'abord, il y a des procédures à mettre en place. Il y a des mesures, il y a des études. Il y a plein de choses qui sont à disposition des habitants. La mairie, le rôle du maire, en fait, et du service urbanisme, c'est simplement d'instruire à un moment des demandes d'urbanisme pour les installations. Nous, on demande systématiquement des mesures en anticipation de ce qui va être installé. Après, il faut savoir que chaque citoyen peut aussi demander, c'est gratuit, hein, c'est, la loi le permet, chaque citoyen peut demander des études. Donc, quelqu'un, notamment sur les Opalines ou sur le stade, ces gens qui pensent que ça va ruiner leur santé, ils ont la possibilité de demander une étude qui va être faite gratuitement et qui va être faite par l'opérateur. C'est une obligation légale. Après, en termes de pour assurer les gens que vous le proposez, il faut savoir que sur une antenne, c'est pas, et la puissance, elle ne multiplie pas que le nombre d'antennes. Si c'est du 15 millivolts, parfois, ce n'est pas 45 millivolts, ça reste du 15 millivolts. Voilà. Et le plus, s'il y a un danger, d'abord, le danger n'est pas avéré pour les portables, s'il y a un danger qui est le plus latent aujourd'hui, s'il existe, moi je pense qu'il n'existe pas forcément, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité au problème des ondes magnétiques qui inondent nos environnements, notamment familiaux, c'est peut-être avant tout ça. Parce que la plus grosse puissance, elle est ici, en fait, sur le téléphone portable. Ensuite, sur du Wi-Fi, peut-être sur les plaques induction, les plaques. Et donc, chacun il a son choix, il y a les comptes en ligne qui... Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui, à tort ou à raison, agitent les peurs. Bon, bah, je pense que tout ça, c'est bien réglementé en France. Il y a des procédures à suivre. Nous, en ce qui concerne la mairie du Pradet, on suit simplement des procédures. Si les antennes n'étaient pas installées sur le pôle sportif, elles seraient chez les particuliers, puisque les particuliers ont aussi le droit d'installer des antennes relais chez eux, et la mairie ne peut pas s'opposer à une autorisation d'urbanisme, surtout sur les antennes relais, où on s'expose à perdre des recours de la part des opérateurs. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est peut-être facile parfois à utiliser politiquement, mais sur laquelle nous, on assume complètement notre position, et on est complètement conforme à la loi Elan pour ce sujet. Mais merci d'avoir posé la question, et merci de nous aider à rassurer les prédateurs sur ce sujet qui est primordial.
Vous avez évoqué que la précédente municipalité avait installé 9 antennes. Peut-être, j'en sais rien, très franchement. Non, mais je vous crois, éventuellement, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a besoin de 9 de plus, alors qu'on n'a pas plus d'habitants, plus de... Qu'est-ce qui justifie? Parce que sinon, avec ce type de raisonnement, la prochaine municipalité, elle va dire, je peux installer 9 antennes aussi. Et chaque fois, on en... Mais par rapport aux besoins, c'est quoi?
Je vais expliquer, c'est très simple. Je vais faire un petit, comme, c'est ma fête aujourd'hui, du coup je parle un petit peu 5 minutes d'expérience personnelle et professionnelle. J'ai commencé Internet en 95-96, c'était tout début. J'allais voir des grandes banques françaises, j'en montrais ce que c'était qu'Internet, ils m'expliquaient à l'époque, mais ça ne marchera jamais Internet en France, on a Minitel. Voilà. Alors depuis, c'est un peu évolué, parce qu'on a tous dans nos familles des comptes Spotify ou d'autres, du Deezer, on a tous du Netflix. Il y a un besoin de bande passante qui est devenu énorme, parce qu'on s'envoie tous des MMS, on s'envoie des SMS, on utilise tous nos portables, peut-être trop d'ailleurs. On est en mode connecté permanent dans toutes nos dimensions. Nous, on a équipé nos services techniques de tablettes pour qu'ils puissent communiquer. Donc aujourd'hui, ces engins-là, ils s'invitent dans les familles, ils s'invitent dans la vie professionnelle, ils s'invitent partout. Donc le besoin en débit, il est juste exponentiel. C'est pas, ça ne multiplie pas par 2 ou par 3, c'est exponentiel. Et c'est que le début, parce que ça va continuer. On va faire de plus en plus de vidéos. Là, aujourd'hui, on téléphone. Dans quelques années, ça sera fini. On ne sera plus de la vidéo. Ça ne sera plus des appels téléphoniques. Ce sera de la vidéo. Donc, le besoin en débit mobile, il accélère. Il y a aussi des gens qui font le choix de ne pas prendre de ligne ADSL ou de ligne fibre optique qui se contentent d'un 5G. Et avec la technologie 5G qui arrive, ça va être encore pire ou encore meilleur en fonction de où on se passe. Parce qu'avec du 5G, on va pouvoir faire encore plus de choses. Donc, l'usage de ces outils va être encore multiplié. Donc, le besoin en bande passante va encore augmenter. Donc des antennes relais, je peux dire un truc, c'est qu'on n'est pas prêt de s'arrêter à en installer. Oui, et en plus c'est vrai, c'est plus il y a d'antennes relais, moins il y a de puissance qui est demandée par le portable. C'est-à-dire que c'est plus dangereux d'être loin d'une antenne relais, parce que la puissance qui est demandée par le portable va être plus importante que si on est proche d'une antenne relais, contrairement à la croyance populaire. Je suis content d'avoir votre question, je suis content d'avoir pu répondre. Je vous souhaite tous un très très bel été, les festivités vont continuer, on ne les a jamais arrêtées, vous avez remarqué aussi, mais les Baletti c'est mardi, la fête de la musique c'est vendredi, j'ai une bêtise Daniel, la fête de la musique c'est vendredi, après c'est parti pour tous les Baletti le mardi, la fête de la Saint-Pierre le 6 juillet, puis après on ne s'arrête pas, on continue pendant toutes les années qui viennent.